Blaise Pascal, Pensée, chapitre 15, Preuve de Jésus-Christ par les prophéties. La plus grande des preuves de Jésus-Christ, ce sont les prophéties. C'est aussi à quoi Dieu a le plus pourvu, car l'événement qui les a remplis est un miracle subsistant depuis la naissance de l'Église jusqu'à la fin. Ainsi, Dieu a suscité des prophètes durant 1600 ans, et pendant 400 ans après, il a dispersé toutes ses prophéties avec tous les Juifs qui les portaient dans tous les lieux du monde. Voilà quelle a été la préparation à la naissance de Jésus-Christ, dont l'Évangile, devant être cru par tout le monde, il a fallu non seulement qu'il y ait eu des prophéties pour le faire croire, mais encore que ces prophéties fussent répandues par tout le monde pour le faire embrasser par tout le monde. Quand un seul homme aurait fait un livre des prédictions de Jésus-Christ pour le temps et pour la manière, et que Jésus-Christ serait venu, conformément à ses prophéties, ce serait une force infinie. Mais il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes, durant 4000 ans, qui constamment et sans variation viennent, l'un ensuite de l'autre, prédire ce même avènement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste pendant 4000 années pour rendre encore témoignage des assurances qu'ils en ont et dont ils ne peuvent être détournés par quelques menaces et quelques persécutions qu'on leur fasse. Ceci est tout autrement considérable. Le temps est prédit par l'état du peuple juif, par l'état du peuple païen, par l'état du temple, par le nombre des années. Des prophètes, ayant donné diverses marques qui devaient toutes arriver à l'avènement du Messie, il fallait que toutes ces marques arrivassent en même temps. Et ainsi, il fallait que la quatrième monarchie fut venue lorsque les 70 semaines de Daniel seraient accomplies, que le sceptre fût alors ôté de Juda, et qu'alors le Messie arriva. Et Jésus-Christ est arrivé, alors, qui s'est dit le Messie. Il est prédit que, dans la quatrième monarchie, avant la destruction du second temple, avant que la domination des Juifs fût ôtée, et en la 70e semaine de Daniel, les païens seraient instruits et amenés à la connaissance du Dieu adoré par les Juifs, que ceux qui l'aiment seraient délivrés de leurs ennemis et remplis de sa crainte et de son amour. Et il est arrivé quand la quatrième monarchie, avant la destruction du second temple, etc., les païens en foule adorent Dieu et mènent une vie angélique. Les filles consacrent à Dieu leur virginité et leur vie. Les hommes renoncent à tout plaisir. Ce que Platon n'a pu persuader à quelque peu d'hommes choisis et si instruits, une force secrète le persuade à 100 000 000 d'hommes ignorants par la vertu de peu de paroles. Qu'est-ce que tout cela? C'est ce qui a été prédit si longtemps auparavant. Et fundam spiritum meum super omnem carnem. Joël 2, 28. Tous les peuples étaient dans l'infidélité et dans la concupiscence. Toute la terre devient ardente de charité. Les princes renoncent à leur grandeur. Les riches quittent leurs biens. Les filles souffrent le martyre. Les enfants abandonnent la maison de leur père pour aller vivre dans les déserts. D'où vient cette force? C'est que le Messie est arrivé. Voilà les faits et les marques de sa venue. Depuis 2000 ans, le Dieu des Juifs était demeuré inconnu parmi l'infinie multitude des nations païennes. Et, dans le temps prédit, les païens adorent en foule cet unique Dieu. Les temples sont détruits. Les rois mêmes se soumettent à la croix. Qu'est-ce que tout cela? c'est l'Esprit de Dieu qui est répandu sur la terre. Il est prédit que le Messie viendrait établir, Jérémie 23, 7, une nouvelle alliance qui ferait oublier la sortie d'Égypte, qu'il mettrait sa loi non dans l'extérieur mais dans les cœurs. Isaïe 51, 7, Jérémie 31, 33, 32, 40, qu'il mettrait sa crainte, qui n'avait été qu'au dehors, dans le milieu du cœur. Que les Juifs réprouveraient Jésus-Christ, et qu'ils seraient réprouvés de Dieu, parce que la vigne élue, Isaïe 5, 2, 3, 4, etc., ne donnerait que du verjus. Que le peuple choisi serait infidèle, ingrat et incrédule. Isaïe 65, 2. Que Dieu les frapperait d'aveuglement, Deutéronome 18, 28 et 29, et qu'ils tâtonneraient en plein midi comme des aveugles. Que l'Église serait petite en son commencement, Ézéchiel 17, et croîtrait ensuite. Il est prédit qu'alors l'idolâtrie serait renversée, Ézéchiel 30, 13. Que ce Messie abattrait toutes les idoles et ferait entrer les hommes dans le culte du vrai Dieu. Que les temples des idoles seraient abattus et que parmi toutes les nations et en tout lieu du monde, on lui offrirait une hostie pure, Malachie 1, 11, et non pas des animaux. Qu'il enseignerait aux hommes la voie parfaite, qu'il serait roi des Juifs et des gentils. Et jamais il n'est venu ni devant ni après aucun homme qui ait rien enseigné approchant cela. Après tant de gens qui ont prédit cet avènement, Jésus-Christ est enfin venu dire « Me voici, et voici le temps ». Il est venu dire aux hommes qu'ils n'ont point d'autres ennemis qu'eux-mêmes, que ce sont leurs passions qui les séparent de Dieu, qu'il vient pour les en délivrer et pour leur donner sa grâce, afin de former de tous les hommes une Église sainte, qu'il vient ramener dans cette Église les païens et les juifs, qu'il vient détruire les idoles des uns et la superstition des autres. Ce que les prophètes leur a-t-il dit, ont prédit de voir arriver, je vous dis que mes apôtres vont le faire. Les juifs vont être rebutés. Jérusalem sera bientôt détruite. Les païens vont entrer dans la connaissance de Dieu, et mes apôtres les y vont faire entrer après que vous aurez tué l'héritier de la vigne. Ensuite, les apôtres ont dit aux Juifs, « Vous allez être maudits, et aux païens, vous allez entrer dans la connaissance de Dieu. » À cela s'opposent tous les hommes par l'opposition naturelle de leur concupiscence. Ce roi des Juifs et des gentils est opprimé par les uns et par les autres qui conspirent sa mort. Tout ce qu'il y a de grand dans le monde s'unit contre cette religion naissante, les savants, les sages, les rois. Les uns écrivent, les autres condamnent, les autres tuent. Et malgré toutes ces oppositions, voilà Jésus-Christ, en peu de temps, régnant sur les uns et les autres. Et, détruisant et le culte judaïque dans Jérusalem, qui en était le centre, et dont il a fait sa première église, et le culte des idoles, dans Rome, qui en était le centre, et dont il a fait sa principale église. Des gens simples et sans force, comme les apôtres et les premiers chrétiens, résistent à toutes les puissances de la terre, se soumettent les rois, les savants et les sages, et détruisent l'idolâtrie s'y établie. Et tout cela se fait par la seule force de cette parole qu'il avait prédit. Les Juifs, en tuant Jésus-Christ pour ne pas le recevoir pour Messie, lui ont donné la dernière marque de Messie. En continuant à le méconnaître, ils se sont rendus témoins irréprochables. Et en le tuant et continuant à le renier, ils ont accompli les prophéties. Qui ne reconnaîtrait Jésus-Christ à tant de circonstances qui en ont été prédites? car il est dit qu'il aura un précurseur, Malachie 3.1, qu'il naîtra enfant, Isaïe 9.6, qu'il naîtra dans la ville de Bethléem, Michée 5.2, qu'il sortira de la famille de Juda et de David, qu'il paraîtra principalement dans Jérusalem, qu'il doit aveugler les sages et les savants, Isaïe 6.8 et 29.18, et annoncer l'évangile aux pauvres et aux petits, ouvrir les yeux des aveugles et rendre la santé aux infirmes, et mener à la lumière ceux qui languissent dans les ténèbres. Qui doit enseigner la voie parfaite, Isaïe 42-55, et être le précepteur des gentils. Qui doit être la victime, Isaïe 53, pour les péchés du monde. Qui doit être la pierre, Isaïe 28-15, fondamentale et précieuse. Qu'il doit être la pierre d'achoppement, Isaïe 8.14, et de scandale. Que Jérusalem doit heurter contre cette pierre, Isaïe 15. Que les édifiants doivent rejeter cette pierre, Psaume 117. Que Dieu doit faire de cette pierre le chef du coin, Psaume 117. Et que cette pierre doit croître en une montagne immense, Deutéronome 2.35, et remplir toute la terre. Qu'ainsi, il doit être rejeté, méconnu, trahi, vendu, Zacharie 11.12, souffleté, moqué, affligé en une infinité de manières, abreuvé de fiel, Psaume 69, 21. Qu'il aurait les pieds et les mains percés, Psaume 22.17. Qu'on lui cracherait au visage, Isaïe 50, 6, qu'il serait tué, Daniel 9, 26, et ses habits jetés au sort, Psaume 22, 18, qu'il ressusciterait le troisième jour, Psaume 16, 10, Osée 6, 2, qu'il monterait au ciel pour s'asseoir à la droite du Dieu, Psaume 109, 1, que les rois s'armeraient contre lui, Psaume 2, 2. Qu'étant à la droite du Père, il sera victorieux de ses ennemis. Psaume 109, 1. Que les rois de la terre et tous les peuples l'adoreraient. Isaïe 60, 10. Que les Juifs subsisteront en nation. Jérémie 31, 36. Qu'ils seront errants, sans roi, sans sacrifice, sans autel, etc. Osée 3, 4. Sans prophète, attendant le salut et ne le trouvant point, Amos Isaïe 41. Le Messie devait lui seul produire un grand peuple, élu, saint et choisi. Le conduire, le nourrir, l'introduire dans le lieu de repos et de sainteté. Le rendre saint à Dieu, en faire le temple de Dieu, le réconcilier à Dieu, le sauver de la colère de Dieu, le délivrer de la servitude du péché qui règne visiblement dans l'homme, donner des lois à ce peuple, graver ces lois dans leur cœur, s'offrir à Dieu pour eux, se sacrifier pour eux, être une hostie sans tache et lui-même sacrificateur. Il devait s'offrir lui-même et offrir son corps et son sang, et néanmoins offrir pain et vin à Dieu. Jésus-Christ a fait tout cela. Il est prédit qu'il devait venir un libérateur, qui écraserait la tête aux démons, qui devait délivrer son peuple de ses péchés, ex omnibus iniquitatibus, qu'il devait y avoir un nouveau testament, qui serait éternel, qu'il devait y avoir une autre prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, que celle-là serait éternelle, que le Christ devait être glorieux, puissant, fort, et néanmoins si misérable qu'il ne serait pas reconnu, qu'on ne le prendrait pas pour ce qu'il est, qu'on le rejetterait, qu'on le tuerait, que son peuple qu'il aurait renié ne serait plus son peuple, que les idolâtres le recevraient et auraient recours à lui, qu'il quitterait Sion pour régner au centre de l'idolâtrie, que néanmoins les Juifs subsisteraient toujours, qu'ils devaient sortir de Juda et qu'il n'y aurait plus de roi. Les prophètes sont mêlés de prophéties particulières et de celles du Messie, afin que les prophéties du Messie ne fussent pas sans preuve et que les prophéties particulières ne fussent pas sans fruit. « Non habemus regem nisi caesarem », disaient les Juifs. Donc, Jésus-Christ était le Messie, puisqu'il n'avait plus de roi qu'un étranger et qu'il n'en voulait point d'autre. Les 70 semaines de Daniel sont équivoques pour le terme du commencement à cause des termes de la prophétie et pour le terme de la fin à cause des diversités des chronologistes. Mais toute cette différence ne va qu'à 200 ans. Les prophéties qui représentent Jésus-Christ pauvre le représentent aussi maître des nations. Les prophéties qui prédisent le temps, Isaïe 53, Zacharie 9:9, ne le prédisent que maître des gentils et souffrants, et non dans les nus, ni juges. Et celles qui le représentent ainsi, jugeant les nations et glorieux, ne marquent point le temps. Quand il est parlé du Messie, Isaïe 65, 15-16, comme grand et glorieux, il est visible que c'est pour juger le monde et non pour le racheter. Chapitre 16. Diverses preuves de Jésus-Christ. Pour ne pas croire les apôtres, il faut dire qu'ils ont été trompés ou trompeurs. L'un et l'autre est difficile, car pour le premier, il n'est pas possible de s'abuser à prendre un homme pour être ressuscité. Et pour l'autre, l'hypothèse qu'ils aient été fourbes est étrangement absurde. Qu'on la suive tout au long, qu'on s'imagine ces 12 hommes assemblés après la mort de Jésus-Christ, faisant le complot de dire qu'il est ressuscité, ils attaquent par là toutes les puissances. Le cœur des hommes est étrangement penchant à la légèreté, au changement, aux promesses, au bien. Si peu qu'un d'eux se fût démenti par tous ses attraits, et qui plus est, par les prisons, par les tortures et par la mort, ils étaient perdus. Qu'on suive cela. Tandis que Jésus-Christ était avec eux, ils les pouvaient soutenir. Mais après cela, s'il ne leur est apparu, qui les a fait agir? Le style de l'Évangile est admirable en une infinité de manières, et, entre autres, en ce qu'il n'y a aucune invective de la part des historiens contre Judas ou Pilate, ni contre aucun des ennemis ou des bourreaux de Jésus-Christ. Si cette modestie des historiens évangéliques avait été affectée, aussi bien que tant d'autres traits d'un si beau caractère, et qu'ils ne l'eussent affectée que pour la faire remarquer, s'ils n'avaient osé la remarquer eux-mêmes, ils n'auraient pas manqué de se procurer des amis qui eussent fait ces remarques à leur avantage. Mais ils ont agi de la sorte, sans affectation, et par un mouvement tout désintéressé. Ils ne l'ont fait remarquer par personne. Je ne sais même si cela a été remarqué jusqu'ici. Et c'est ce qui témoigne la naïveté avec laquelle la chose a été faite. Jésus-Christ a fait des miracles et les apôtres ensuite, et les premiers saints en ont fait aussi beaucoup. Parce que les prophéties n'étant pas encore accomplies, et s'accomplissant par eux, rien ne rendait témoignage que les miracles. Il était prédit que le Messie convertirait les nations. Comment cette prophétie se fût-elle accomplie sans la conversion des nations? Et comment les nations se fussent-elles converties au Messie, ne voyant pas ce dernier effet des prophéties qui le prouvent? Avant donc qu'il fût mort, qu'il fût ressuscité, et que les nations fussent converties, tout n'était pas accompli. Et ainsi, il a fallu des miracles pendant tout ce temps-là. Maintenant, il n'en faut plus pour prouver la vérité de la religion chrétienne, car les prophéties accomplies sont un miracle subsistant. L'état où l'on voit les Juifs est encore une grande preuve de la religion, car c'est une chose étonnante de voir ce peuple subsister depuis tant d'années et de le voir toujours misérable, étant nécessaire pour la preuve de Jésus-Christ, et qu'il subsiste pour le prouver, et qu'il soit misérable puisqu'ils l'ont crucifié. Et quoiqu'il soit contraire d'être misérable et de subsister, il subsiste néanmoins, toujours, malgré sa misère. Mais n'ont-ils pas été presque au même état au temps de la captivité? Non, le sceptre ne fut point interrompu par la captivité de Babylone à cause que le retour était promis et prédit. Quand Nabuchodonosor emmena le peuple, de peur qu'on eût cru que le sceptre fût ôté de Juda, il leur fut dit auparavant qu'ils y seraient peu et qu'ils seraient rétablis. Ils furent toujours consolés par les prophètes et leurs rois continuèrent. Mais la seconde destruction est sans promesse de rétablissement, sans prophète, sans roi, sans consolation, sans espérance, parce que le sceptre est ôté pour jamais. Ce n'est pas avoir été captif que de l'avoir été avec l'assurance d'être délivré dans 70 ans. Mais maintenant, ils le sont sans aucun espoir. Dieu leur a promis qu'encore qu'il les dispersa aux extrémités du monde, néanmoins, s'ils étaient fidèles à sa loi, il les rassemblerait. Ils y sont très fidèles et demeurent opprimés. Il faut donc que le Messie soit venu, et que la loi qui contenait ses promesses soit finie par l'établissement d'une loi nouvelle. Si les Juifs eussent été tous convertis par Jésus-Christ, nous n'aurions plus que des témoins suspects, et s'ils avaient été exterminés, nous n'en aurions point du tout. Les Juifs le refusent, non pas tous. Les saints le reçoivent, et non les charnels. Et tant s'en faut que cela soit contre sa gloire, que c'est le dernier trait qu'il achève. La raison qu'ils en ont est la seule qui se trouve dans tous leurs écrits, dans le Talmud et dans les rabbins, n'est que parce que Jésus-Christ n'a pas dompté les nations à main armée. Jésus-Christ a été tué, disent-ils. Il a succombé. Il n'a pas dompté les païens par sa force. Il ne nous a pas donné leur dépouille. Il ne donne point de richesse. N'ont-ils que cela à dire? C'est en cela qu'il m'est aimable. Je ne voudrais point celui qu'il se figure. Qu'il est beau de voir par les yeux de la foi Darius, Cyrus, Alexandre, les Romains, Pompée et Hérode agir, sans le savoir, pour la gloire de l'Évangile. Chapitre 17. Contre Mahomet. La religion mahométane a pour fondement l'Alcoran et Mahomet. Mais ce prophète, qui devait être la dernière attente du monde, a-t-il été prédit? Et quelle marque a-t-il que n'est aussi tout homme qui se voudra dire prophète? Quel miracle dit-il lui-même avoir fait? Quel mystère a-t-il enseigné selon sa tradition même? Quelle morale et quelle félicité! Mahomet est sans autorité. Il faudrait donc que ses raisons fussent bien puissantes, n'ayant que leur propre force. Si deux hommes disent des choses qui paraissent basses, mais que les discours de l'un aient un double sens, entendu par ceux qui le suivent, et que les discours de l'autre n'aient qu'un seul sens. Si quelqu'un, n'étant pas du secret, entend discourir les deux en cette sorte, il en fera un même jugement. Mais si ensuite, dans le reste du discours, l'un dit des choses angéliques, et l'autre toujours des choses basses et communes, et même des sottises, il jugera que l'un parlait avec mystère et non pas l'autre. L'un ayant assez montré qu'il est incapable de telles sottises et capable d'être mystérieux, et l'autre qu'il est incapable de mystère et capable de sottise. Ce n'est pas parce qu'il y a d'obscur dans Mahomet et qu'on peut faire passer pour avoir un sens mystérieux que je veux qu'on en juge, mais parce qu'il y a de clair par son paradis et par le reste. C'est en cela qu'il est ridicule. Il n'en est pas de même de l'écriture. Je veux qu'il y ait des obscurités, mais il y a des clartés admirables et des prophéties manifestes accomplies. La partie n'est donc pas égale. Il ne faut pas confondre et égaler les choses qui ne se ressemblent que par l'obscurité et non pas par les clartés, qui méritent, quand elles sont divines, qu'on révère les obscurités. L'Alcoran dit que saint Matthieu était homme de bien, donc Mahomet était faux prophète, ou en appelant gens de bien des méchants, ou en ne les croyant pas sur ce qu'ils ont dit de Jésus-Christ. Tout homme peut faire ce qu'a fait Mahomet, car il n'a point fait de miracle, il n'a point été prédit, etc. Nul homme ne peut faire ce qu'a fait Jésus-Christ. Mahomet s'est établi en tuant, Jésus-Christ en faisant tuer les siens. Mahomet en défendant de lire, Jésus-Christ en ordonnant de lire. Enfin, cela est si contraire que si Mahomet a pris la voie de réussir humainement, Jésus-Christ a pris celle de périr humainement. Et au lieu de conclure que puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ a bien pu réussir, il faut dire que puisque Mahomet a réussi, le christianisme devait périr s'il n'eût été soutenu par une force toute divine.